à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM, la radio du LP2I. Nous sommes trois lycéens et aujourd'hui nous allons interviewer un groupe local, les Cactus Riders. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes les Cactus Riders, un groupe de rock influencé par les années 50 et vous allez nous parler de votre nouvel album qui est sorti, il me semble, il y a à peine deux jours, non? Donc on pourrait commencer par vous poser la question de comment le groupe s'est formé, qui en était à l'origine, quelles étaient vos motivations, quel était le projet derrière. Je vous laisse nous raconter.
Bonjour, donc effectivement, Cactus Riders, on a un groupe qui s'est, on va dire, spécialisé dans le rock des années 50, c'est comme ça qu'on a commencé. On s'est formé il y a 10 ans, en 2016, c'était suite à un spectacle de rue qu'on jouait du coup dans la rue. C'est un spectacle sur lequel on venait faire un prêche sur comment vivre sa vie façon rock'n'roll et on voulait poursuivre la journée avec le soir un concert des classiques du rock'n'roll. Donc on a monté un set dans ce style-là. Vraiment, pour reprendre les légendes du rock des années 50, ce qui est Elvis Presley, Chuck Berry. Et suite au premier concert qu'on a fait, c'était au Cluricum, le bar qui est place du marché à Poitiers. Il y a eu une très belle ambiance et le spectacle de rue a pris fin et on a continué avec ce set rock'n'roll. Et c'est comme ça que les Cactus Riders sont nés.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce style en particulier plutôt que... je ne sais pas, de la pop ou du rock moderne?
En ce qui me concerne, moi, c'est ce style musical qui m'a donné envie de faire du piano, par exemple. J'en ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, et puis j'ai toujours accroché avec ce style-là. Puis Benjamin aussi, je crois, au niveau de la guitare.
Dans le groupe, on est tous fans de rock, et le rock and roll, vraiment, c'est la jeunesse de tout ce qui découle après, de la pop, du hard rock et tout ça. C'est vraiment les racines de ce style. Et puis, le cahier des charges du groupe, c'était vraiment de créer un peu une carte postale autour de cette époque, quoi. Si vous avez vu Retour vers le futur, c'est un peu l'ambiance qu'on essaie de recréer, la salle de bal qu'il y a dans Retour vers le futur 1. Et donc quand on est en concert, c'est un peu l'esprit qu'on essaie de donner, que ce soit avec les coiffures, les costumes, les instruments de musique. Et le style de musique, forcément. Donc, l'idée, c'est de faire danser les gens et de créer une petite carte postale sur cet âge d'or du rock'n'roll.
Et pour apprendre à vous connaître un peu plus personnellement, est-ce que vous pourriez nous parler d'un événement qui vous a marqué dans votre carrière ou...
Si, il y a un événement quand même. Jusque-là, on faisait de la reprise des artistes des années 50. Et il y a 4 ans, on a commencé à composer. Et l'élément déclencheur, ça a été un incendie duquel on s'est échappé. Suite à un concert, on dormait dans un gîte qui était chauffé avec un poêle à bois. Le poêle à bois a embrasé la réserve de bois derrière pendant qu'on dormait. Par chance, il y a Karyl, notre batteur, qui s'est réveillé en pleine nuit et qui nous a sorti de là, enfin qui nous a dit de sortir de là. Donc on a sauté par la fenêtre, etc. Et ça a donné lieu à la première chanson qu'on a écrite qui s'appelle « The House is on Fire ».
Donc,
si vous êtes curieux, vous irez voir sur Deezer, Spotify. C'est sur notre premier album, Skulls Out. Une chanson qui s'appelle The Horse Is on Fire. C'est ça qui nous a donné envie qui a déclenché l'écriture du premier album.
D'accord. Et sur cet album-là, il y a plusieurs petites histoires qu'on a mis en chanson, quoi. Plusieurs trucs qui nous sont arrivés.
Oui, c'est un album un peu autobiographique sur vos.
Sur certaines chansons, ouais.
Ouais. Sur certaines chansons. Il se trouve que Cactus Riders, on est donc 4 musiciens. Il y a Vincent qui est ici au piano, moi je suis à la guitare. Il y a aussi Karyl à la batterie, Andolin à contrebasse. Et on est tous les 4 chanteurs. Et chacun a sa part aussi dans la composition. Donc il va y avoir plusieurs univers qui vont se mélanger dans ce qu'on écrit dans la musique. Donc ça peut être effectivement des histoires personnelles, comme ça peut être des choses très, très fantaisistes, où Vincent aime parler d'histoires aussi. Donc c'est 4 univers qui vont se mélanger.
D'accord.
En parlant d'identité de groupe, pourquoi les Cactus Riders et pas les champions du rock?
C'est toujours compliqué de trouver un nom de groupe. Donc en fait, on est parti d'une application pour créer un nom de groupe, quoi. Tu donnes le style et puis ils te proposent plein de noms. Et donc, on a fait une liste avec plein de trucs qui nous plaisaient ou plaisaient moins. Puis on est arrivé à un moment à un consensus sur Cactus Riders. On trouvait que ça sonnait bien et voilà. Mais c'est aussi bête que ça, quoi.
Vous avez bien fait de le garder, ça rend bien.
Mais ouais, c'est
toujours compliqué de trouver un nom de groupe parce qu'il faut quelque chose qui soit catchy, que les gens puissent retenir, qui correspondent au style et qui ne soient pas déjà pris par autre chose, quoi.
Ça, c'est très,
très
bien. Pas
une marque de boîte de chocolat ou un truc, quoi.
C'est pas simple.
Voilà.
Et je me permets de rebondir sur... du coup, vous écrivez vos titres en mélangeant vos différentes idées. Et vos titres sont tous en anglais ou bien vous en avez en... Oui, ils sont tous en anglais.
Oui.
Vous n'avez jamais voulu écrire en français ou dans une autre langue?
Moi, j'aimerais bien, mais.
Ah ouais.
C'est la bataille.
Les copains sont pas trop pour.
Non, ça claque moins à l'international.
C'est très dur de faire du rock'n'roll en français sans que ça parte un peu côté. C'est un mot qui est un peu dur, mais un peu ringard, quoi. C'est très dur à faire sonner, en tout cas, le rock'n'roll en français. Peut-être qu'on y arrivera, hein, mais pour l'instant, on se base sur les artistes qu'on a repris, donc que ce soit légende américaine, on va dire.
Ouais. Oui, ok.
C'est ce qui colle le mieux, quoi.
Ok. Intéressant.
Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, donc plutôt une ambiance retour vers le futur 1 pour vos concerts. Votre concert qui arrive bientôt au Confort Moderne, quelle dynamique vous lui donneriez? À quoi doivent s'attendre ceux qui y participeront?
Bah, le 29 au Confort Moderne, ça va être la release party de notre album. Donc c'est là où on va dévoiler les titres de l'album, jouer sur scène pour la première fois. Donc on va jouer pas mal de morceaux de l'album, on va aussi jouer des morceaux de l'album précédent et quelques classiques du rock toujours, parce que ça, on tient à y rester fidèle à ça. Ouais.
Et vu que ça va être votre première fois de cet album en live, si je peux dire, est-ce que vous avez une forme d'appréhension, de stress, de savoir si vous êtes au point ou est-ce que non, vous partez confiant et...
Non, on a toujours du stress.
Toujours.
De toute façon, c'est jamais bon signe d'être trop confiant quand on arrive sur scène, quoi. C'est toujours bien d'avoir un peu le trac. Mais en fait, c'est les morceaux, plus tu les joues sur scène, mieux tu les maîtrises. Donc là, on n'a pas encore eu trop le temps de les jouer sur scène. Donc on va travailler, on répète, on va aller à Partenay, à la salle d'Ifart, où on va se mettre en condition de scène avec les retours et tout qui va bien. Mais ouais, ça va être la grande première le 29, quoi. Mais c'est ça qui est excitant. Hein.
Oui, ça, vous avez un peu d'adrénaline, une hâte de faire ce concert qui sera donc une première.
Bah ouais, et puis alors d'un, on va tester les morceaux qu'on n'a jamais joués sur scène et on teste aussi ce qu'on appelle une setlist, c'est-à-dire l'ordre des morceaux dans lesquels on va jouer, qui est assez important quand on compose le set d'un concert. L'ordre joue pas mal sur l'énergie qu'on donne au concert, quoi.
Même sur la timeline, savoir si tout rentre ou bien s'il faut...
Si tout rentre, et puis si c'est dans le bon ordre, quoi.
Oui.
Mais ouais, l'ordre change beaucoup de choses, quoi. Par quoi tu commences, par quoi tu termines, ce que tu mets au milieu, enfin bref.
Ouais,
et des fois, parce que là, on a répété la semaine dernière, on a testé un premier ordre, et puis on n'était pas satisfait, quoi. Donc on a modifié, on a refait un ordre qui, là, nous plaisait beaucoup plus. Donc on va le refaire encore, c'est vendredi qu'on répète, je crois, c'est ça. On va le retester et puis on va peaufiner certainement encore des petits trucs, quoi, mais voilà.
Ouais.
Mais en gros, après quand on ira à Difart, on y sera le 27 et le 28, donc vraiment juste avant le Confort. Et là, normalement, on aura déterminé notre ordre une bonne fois pour toutes.
Ok, bon parfait alors.
Et en parlant de votre nouvel album, du coup, comment vous pourriez le définir ou le résumer?
C'est une bonne question, parce que comme je disais, on a quatre univers qui se croisent dans cet album, donc il va y avoir à la fois des morceaux un peu, on va dire un peu lugubres, qui parlent de fantômes, de monstres, comme la chanson Atlas Monster, qu'on aura peut-être la chance d'écouter tout à l'heure. Vincent, il aime bien parler d'histoire, donc il y a un morceau sur Aliénor d'Aquitaine, il y a des choses un peu plus personnelles. Donc voilà, c'est assez... Il y a pas mal de choses. C'est dur à définir en une phrase ou en un mot, quoi.
C'est vrai que c'est... En soi, c'est une manière de décrire, parce que moi, c'est ce qui m'avait, c'est ce qui nous avait interloqué lorsqu'on avait fait l'écoute de vos titres, c'est que vraiment il y a plusieurs énergies et plusieurs ambiances différentes. Moi, ce qui m'avait, j'ai écouté à la suite votre dernier album et c'est le passage j'ai mis en aléatoire entre To the End et il me semble que c'est Twister Tongue. Tongue Twister,
ouais.
Et je crois que les deux ambiances se contrastent mal niveau.
Bah, To the End, c'est vraiment une balade un peu cow-boy, très, très intimiste, on va dire. Et Tongue Twister, c'est un rock limite punk qui s'inspire pas mal des cartoons, quoi. Donc on est sur deux univers bien différents. Ouais.
Même dans l'album, Skulls Out, donc on passe de Welcome to Lemonum, c'est ça.
Ouais.
Donc ça parle de Poitiers, non?
Ouais, c'est ça.
Et pouvez-vous nous raconter pourquoi Lemonum, du coup, c'est que c'est l'ancien mot pour définir Poitiers ou...
Ouais, en fait, ce qui me faisait marrer, je suis parti de la pierre levée, donc le dolmen qui est à Poitiers, en fait. Et puis, en fait, devant le dolmen, il y a une plaque qui raconte que Pantagruel, c'est lui qui a construit le dolmen, parce que en gros, les étudiants avaient pas d'endroit pour faire la fête. Donc lui, il a construit ce dolmen-là. Comme ça, ils sont venus faire la fête dessus pour moult ripailles, etc. Enfin, je sais plus les mots de Rabelais, mais voilà. Du coup, ça m'a fait marrer parce que comme c'est en pierre, que c'est un rock. Donc la chanson, c'est que Pantagruel a été premier compositeur de rock de Poitiers, quoi.
Oh, c'est super.
C'est venu comme ça. Et puis bah après je suis allé voir, donc ça c'est un bouquin Pantagruel qui, que Rabelais a écrit à l'époque sous un pseudonyme quoi, Alcofribas Nazier, qui est comment ça s'appelle quand on mélange les lettres d'un mot ?
Un anagramme.
Un anagramme, merci, de son propre nom, quoi. Parce qu'à l'époque, il était curé, donc il n'avait pas le droit officiellement d'écrire des bouquins et tout. Surtout pour dire qu'il fallait faire la fête. Mmh. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça que je raconte. Et je pars de Lemonum, parce qu'à l'époque où Poitiers était celte et romain, bah, le dolmen était déjà là depuis presque 2000 ans, quoi. Oui. Donc en fait, il a toujours été là. Donc c'est un peu ça qui fait le lien sur le truc.
D'accord. C'est surprenant et hyper intéressant.
Voilà.
Vous transportez vraiment l'identité de l'endroit d'où vous venez, donc la ville de Poitiers. Ouais. Donc votre quatrième album vient de sortir, comme on venait d'en parler. Et quelle émotion voulez-vous faire ressortir chez vos auditeurs? Et quel auditeur visez-vous en particulier? Donc avec la langue en anglais, on suppose que vous souhaitiez viser plutôt des auditeurs à l'international?
Bah, ce serait un peu prétentieux parce que pour l'instant on a quand même un groupe à portée plutôt locale voire régionale. C'est plutôt l'ouest de la France qu'on touche actuellement. Après, ce qu'on a voulu mettre dans cet album, il y a un peu de poésie avec Heartless Monster, qui est une ballade qui parle d'un monstre qui a un trou à la place du cœur, qui traîne sa carcasse comme ça et qui pourtant reste amoureux. Et puis voilà, on a apporté quelques nouveaux sons par rapport aux albums précédents. On s'est autorisé l'arrivée d'un orgue électrique. Jusque-là, c'était vraiment piano à l'ancienne, on va dire. Il y a quelques arrangements qu'on s'est permis en plus, des percussions, des choses comme ça.
Oui.
Et voilà, après, nous, on touche un public qui est plutôt familial, il me semble. Hein. On ne cherche pas à avoir un public précis, on s'adresse à tout le monde, que ce soit les jeunes comme les anciens. Donc ceux qui ont vraiment une culture rock, comme ceux qui découvrent le rock. Oui. Voilà.
Ouais, on a des papis qui nous suivent depuis le début, qui ont connu la découverte du rock, le passage de la musette au rock'n'roll, quoi, qui est une révolution dans leur vie. Et ils sont encore en perfecto maintenant, enfin, c'est assez extraordinaire. Donc, ils nous suivent depuis le début, puis eux, ils connaissent vraiment la naissance du rock avec les grandes légendes, quoi, qu'on reprend. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir leur retour sur ce qu'on fait, quoi. Mais nous, notre ambition, entre guillemets, c'est juste que les gens passent un bon moment, qu'ils dansent, qu'ils s'amusent autant que nous sur scène, quoi. Voilà.
Et en parlant d'ambition, est-ce que vous auriez des prochains projets, une tournée, un festival, un cinquième album peut-être?
Alors le cinquième album, il viendra peut-être. Là, pour l'instant, déjà on sort celui-là, on va mettre notre énergie là-dessus.
Oui.
Pour le défendre, là, on a quelques vidéos qui sont en cours de montage et de tournage. Donc il y a un clip, il y a une live session, il y a des visualizers qui arrivent. Ensuite, une tournée, ouais, tous les ans, on essaye de tourner un peu. C'est plutôt la saison chaude qui nous fait travailler. Donc souvent, pour les animations d'été, les communes font appel à nous. Et puis, on va continuer à défendre le groupe comme ça. On est vraiment autoproduit. Il n'y a pas de structure qui nous suit derrière. On a notre association et c'est tout. On n'a pas de label derrière nous. Donc il faut qu'on défende notre musique par nous-mêmes.
Voilà. Mais on ne fait pas de tournée avec 15 dates de suite tous les jours.
Oui.
On aimerait bien, mais non. Ça nous arrive rarement, quoi.
Et du coup, vu que vous êtes autoproduit, qu'il n'y a pas de label, ça n'a rien à voir. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce que vous avez commencé les Cactus Riders suite, du coup, à un spectacle de rue.
Ouais.
Mais ce spectacle de rue, il vient de quelle énergie, Est-ce que vous vous êtes rencontrés parce que vous vouliez tous faire un spectacle de rue? Est-ce que ça date encore avant?
Ouais, ça date encore avant. À l'époque, Vincent et moi, on jouait dans un autre spectacle de rue encore qui s'appelait la Fanfare électrique. Donc là, c'était une fanfare avec que des guitares électriques et un clavier électrique. Donc Vincent et moi, il me semble qu'on s'est rencontrés comme ça. En tout cas, professionnellement, on s'est rencontrés comme ça. Ensuite, il y a eu cette envie de faire un spectacle autour du rock'n'roll déjà. Donc on a créé le spectacle qui s'appelait Wap Douap, donc avec Vincent. C'est là où on a recruté Caril à la batterie. Et voilà, c'est comme ça que les Cactus Riders sont nés. Et Andolin, qui est notre contrebassiste actuel, nous a rejoint en 2019, lui.
D'accord, oui, donc c'est un peu plus récent.
Ouais.
Mais le spectacle Wap Douap était fait par la même compagnie, Midi 12, là, qui s'occupait de la fanfare électrique, en fait.
D'accord.
Donc,
oui, donc vous avez déjà...
On avait un passif déjà en commun.
On avait un passif, ouais.
Oh, trop chouette.
Et on se posait la question donc, par rapport à ce que vous nous avez dit. Donc vous écrivez vous-même vos paroles, vous êtes autoproduit. Mais vous gardez quand même ce style assez propre, assez rock'n'roll.
Mm-hmm.
De quoi parlez-vous en 2026 avec un style de 1955?
Bah écoute, c'est un style qu'on a envie de défendre parce que c'est une musique qui est vivante et qui parle au corps et qui déjà dans les années 50 était là pour rassembler le... Si tu veux, dans les années 50, c'est la première fois que la jeunesse noire et la jeunesse blanche aux États-Unis, quand on sortait de l'apartheid, avaient un produit culturel en commun. Avant, il y avait vraiment les chanteurs pour les noirs, les chanteurs pour les blancs. Il y a Elvis Presley qui a, on peut en discuter ou pas, mais a commencé à chanter de la musique noire faite par un blanc. À l'époque, en tout cas, c'était assez révolutionnaire aux États-Unis. Et les deux jeunesses ont commencé à fréquenter les mêmes lieux, les mêmes concerts et à danser ensemble. Et c'est, alors, nous, c'est à une autre échelle, mais c'est quelque chose qu'on a toujours envie de défendre, c'est que c'est une musique qui rassemble. On n'est pas là pour diviser les gens. En tout cas, à nos concerts, on essaie d'être le moins clivant possible et de passer un moment qui juste réunit les gens, quoi.
Et puis on a toutes les classes d'âge, quoi. On a des papys, comme on vous disait tout à l'heure, mais on a des très jeunes enfants aussi qui s'éclatent, quoi. Oui. Et il y a un côté instinctif avec le rock'n'roll où on voit les petits qui sautent dans tous les sens, alors qu'ils connaissent absolument pas le rock'n'roll et des fois même la musique, quoi.
Ça prend aux tripes.
Mais ouais, ils se font embarquer et ça c'est vachement bien.
Ah, c'est vrai que c'est entraînant. Le rock'n'roll c'est un style qui rassemble, comme vous l'aviez précisé dans, il me semble, votre page Spotify, c'est un rythme qui nous donne envie de danser, de bouger et qui nous prend au trip, quoi.
Ouais, c'est l'idée, ouais. Ouais, carrément.
Si jamais, comme ça, vous rencontriez des élèves comme nous qui veulent se lancer dans un groupe de rock, ce serait quoi le conseil que vous leur donneriez ?
Groupe de rock ou autre chose, faut y aller.
Oui,
faut, faut...
De le faire, pas se poser de questions.
Jouer avec du monde, c'est... Quand on commence un instrument de musique... Jouer avec d'autres gens, c'est ce qui, en tout cas, de mon point de vue, fait progresser le plus, quoi.
C'est le niveau apprentissage collective. Ou niveau personnel, le côté symbiose du groupe ou...
En fait, le fait de pratiquer avec du monde et d'avoir des objectifs, de se lancer, de dire en fin d'année, on va faire, par exemple, je ne sais pas si vous avez une fête au lycée qui permet ça.
On l'a souvent, ouais.
Et ben, c'est un bel objectif pour... T'es obligé de maîtriser les morceaux pour le concert. Donc, il y a un moment, il faut travailler.
Ouais, c'est ça.
Travailler et y prendre du plaisir, c'est surtout ça. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, en groupe, quand quelqu'un est un peu timide, qui joue de la musique, l'effet de groupe fait qu'il va se sentir valorisé sur scène et il va prendre confiance petit à petit aussi. Enfin, ça aide pas mal. Et puis après, faire de la musique, mais sans forcément vouloir devenir un pro, quoi. Juste le plaisir de jouer... Même en étant amateur, on peut vraiment s'éclater, quoi.
Se faire plaisir à soi avant de faire plaisir aux autres.
Ouais,
ça commence comme ça. Hein. Normalement, si on se fait plaisir à soi, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver le même plaisir en face.
Ouais. C'est ça.
Ok.
Et dans votre groupe, vous avez déjà pensé à changer les instruments, changer les habitudes ?
On a chacun notre bagage musical, donc c'est compliqué de changer d'instrument.
Mais ouais, on chante tous les quatre. Après, Andolin, il joue de la guitare, de la basse. Il joue de plusieurs instruments, Karel aussi. Moi, je joue que du piano, puis du ukulélé, mais pas de la guitare, quoi, par exemple.
Si, on a quand même lancé, ça date de 2018, ça, on a lancé un deuxième spectacle qui s'appelle le Vocal Quartet. Là, on est sorti un peu de notre zone de confort, parce qu'on est tous instrumentistes avant d'être chanteurs, à la base. Et là, on s'est dit, on va faire un spectacle avec que du chant a cappella. Donc, on fait du doo-wop. Je ne sais pas si les platters, ça vous parle, ou des choses comme ça. En gros, le principe, s'il y a un chanteur qui chante la ligne de chant lead, et les trois autres vont accompagner avec les chœurs.
Ah oui. C'est génial.
Ouais. Et donc ça, on est juste quatre voix, il n'y a pas de micro, il y a une guitare acoustique quand même pour accompagner, rythmiquement. Et on a les mêmes costards, on le joue en rue, on a nos chorégraphies, là aussi, on est sorti de notre zone de confort, on danse alors qu'on n'est pas du tout danseur à la base. Et ça, c'est un spectacle de proximité, on va dire. C'est vraiment fait pour chanter face aux gens.
Ouais.
Donc sans l'artifice des micros, de l'amplification, là, c'est vraiment quatre voix à nu, quoi.
Vous êtes une sorte de boys band des années 1955.
Exactement. Ouais, on peut le dire.
C'est ça,
le principe. Ouais.
C'est génial. Ça. Ah, trop bien. Et je reviens sur, du coup, cette histoire de doo-wop, c'est ça ?
Ouais, doo-wop.
C'est... Vos voix, vous, sont plutôt basse, baryton. Est-ce qu'il y a une mixité des voix?
Chacun sa tessiture dans le groupe. Ouais. Alors, on n'a pas vraiment de vraies voix basses dans le groupe, ce qui serait idéal pour ce style-là. Mais on fait avec ce qu'on a et ce qu'on sait faire. Donc,
okay.
Mais effectivement, quand on harmonise un morceau, il va y avoir une partie basse, une partie, on va dire, médium, une partie aiguë, pour faire simple, et le chant lead.
D'accord. Et vous changez en fonction des...
En fonction des morceaux, on est à l'aise ou pas.
Ouais.
Mais par exemple, les parties aiguës, c'est souvent Ben qui les fait, ou des fois Andy. Moi, je sais que, enfin, je peux pas monter aussi haut que Ben, quoi. Oui, donc moi, je suis plutôt, par exemple, dans les basses ou dans les ténors.
Oui.
Et voilà. Oui. Andy se balade un peu partout. Cyprien aussi. Mais ouais, on essaie de prendre la partie de voix où la voix sonne le mieux, en fait.
Oui. Oui, vous avez pas un truc attribué, vous...
Non, non, ouais, chacun pioche là où il est à l'aise. On choisit la tonalité pour le chanteur lead. Et c'est comme ça, quoi.
Ah, c'est génial.
Bon, bah, du coup, je pense qu'on peut passer à l'écoute de votre nouveau son, celui qui donne son nom à l'album, Heartless Monster.
Votre nouveau single, Heartless Monster. Le titre est assez intriguant, Un monstre sans cœur. Est-ce qu'il y a derrière une histoire de rupture, de solitude ou quelque chose de peut-être plus abstrait ?
Oui, c'est ça, c'est un peu les histoires qu'on connaît tous ou qu'on va tous connaître. C'est après une rupture, si on provoque la rupture, c'est un sentiment de culpabilité, de se dire on a un peu un monstre sans cœur. Et ça n'empêche pas de pour autant d'aimer la personne, même s'il faut s'en séparer. Voilà, c'est un peu ça l'origine de la chanson.
C'est très beau. Est-ce que dans l'album, il y a une musique qui vous rend plus fier que... Est-ce qu'il y en a une vraiment où vous êtes fier
Bah, on est fier globalement de l'album dans son ensemble. Après, chacun a apporté un peu de soi dedans. Là, on a voulu mettre celle-ci en avant parce que c'est celle qui est assez imagée et qui... La sonorité et voilà, cette poésie qu'on voulait mettre en avant. Après, ouais, je sais pas, toi, Vincent, c'est quoi qui...
Bah, moi, j'aime toutes les chansons. Il y en a une que j'aime peut-être plus que les autres, c'est Going Nowhere. Je trouve qu'elle est très réussie.
Okay.
Mais après, je les aime toutes.
D'accord.
Après, c'est normal, c'est un peu votre petit bébé, votre bijou.
Ça, tu demandes de choisir lequel
enfant. On aime tous nos enfants.
C'est sûr, c'est sûr.
Il y a un passage dans Heartless Monster, donc le riff de guitare ou le solo, qui est vraiment accrocheur et qui reste en tête dès la première écoute. Comment elle est née, cette mélodie ? Est-ce que c'est à force de répéter ou d'un seul coup, ça vous est venu ?
Heartless Monster, moi je l'ai écrit chez moi et après j'ai amené la trame à mes camarades et on a peaufiné ça ensemble. Après, les influences, je ne sais pas si vous avez regardé la série Dexter.
Non.
C'est l'histoire d'un tueur en série mais qui oui. ne tue que des méchants, mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, et qui travaille dans la police. Et le générique m'a un peu inspiré là-dessus. Il y a aussi, alors ce n'est pas conscient, mais on m'a parlé du générique de Narcos. Je sais pas si vous avez vu cette série, un peu dur sur
Pablo Escobar.
Sur Pablo Escobar.
Par contre, je vois le lien avec Dexter.
Mais voilà, le côté un peu musique, petit côté musique Amérique latine, qui est assez discret, mais tu vois, on a rajouté des percussions sur ce morceau. Oui. C'est un peu l'ambiance que je voulais donner, un peu lugubre, un peu latino.
Non, mais le titre est très réussi, vraiment.
Merci, c'est gentil.
C'est quand même un rythme très entraînant pour des paroles moins entraînantes.
Ça reste une des ballades de l'album quand même, c'est pas le plus entraînant de l'album. Hein. C'est pour, quand même pas là-dessus qu'on va danser un gros rock.
Il est agréable à l'écoute, ouais. Oui. Il y a un contraste.
Cool, on prend, merci.
Donc du coup, on sait qu'on peut vous retrouver sur le site, il me semble, c'est cactus-riders.com. Super.
Parfait.
Mais à part sur le site, vous avez d'autres événements prochainement ?
Alors à part le site, on a Facebook pour les plus anciens, Instagram pour les moins anciens. On n'est pas encore sur TikTok, désolé. Et après, donc, vous pouvez nous retrouver pour ceux qui le veulent. Donc le 29 mai, on va faire notre release party. Un peu plus tôt, le 22, on est à la Foire Expo. Là, on va faire un set vraiment sur les légendes du rock'n'roll. On ne jouera pas nos chansons, mais que les classiques du rock.
À 20h.
Ouais. Et ensuite, dans le coin, on va être le 21 juin, on fait la fête de la musique Place du Marché en soirée. On n'a pas l'horaire encore précise, mais je pense que ça va être autour de 20h, 21h. Et dans le coin, ensuite, un événement qui est important pour nous, c'est on va fêter nos 10 ans cette année, et 10 ans du groupe. Ça, on fait ça le 17 octobre, sera à la Manuf, à Poitiers-Sud. Là, c'est la brasserie de bière de Poitiers-Sud, qui tous les ans a la bonne idée de fêter ses 10 ans. Voilà, c'est leur blague à eux. Mais comme nous, c'est réellement nos 10 ans, bah, on s'est dit que c'était pertinent de faire ça avec eux. Quoi.
Ouais, c'est génial.
Et ouais, le 20 juin, on sera à Saint-Savin aussi, pour la fête de la musique là-bas. Et début juillet, on est à Celles-les-Vesco, voilà, le 4 juillet, voilà, pour le Celles Festival.
Alors c'est dans le désordre, hein, désolé. Et le 12 septembre, on est à Ligugé, au bar associatif de Ligugé.
Voilà. Ouais, le bal.
Et après, il y a pas mal d'autres dates, c'est à voir sur notre site. Oui. Voilà, tout est dessus, tout est à jour.
Bon, d'accord, bah, merci beaucoup pour votre temps, pour vos réponses et merci beaucoup.
Merci à vous, merci. C'était chouette.
Merci. Alors,
merci. Et donc, on vous laisse sur un de leurs nouveaux sons de leur quatrième album, Going Nowhere. You know.